Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Christian Jacquiot, je suis économiste et je suis l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Les coulisses de la grande distribution, qui a été publié chez Albin Michel il y a quelques temps, 4 ans déjà, 8e édition aujourd'hui.
Alors là, il faut l'avouer, cette émission, elle est due à un petit coup de colère parce que en passant dans les rues, sur la route et tout ça, je voyais des magnifiques grandes affiches sur lesquelles il était marqué « Mieux consommer, c'est urgent » et c'était signé Monsieur Carrefour. Alors je me suis quand même posé un peu des questions. Mieux consommer, préconisé par Carrefour, c'est vraiment possible ?
Ben oui, c'est possible, surtout pour Carrefour, parce qu'il y a un petit tassement quand même du chiffre d'affaires, donc je crois qu'il a besoin que l'on consomme, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas plus pour lui, puisqu'on voit bien que aujourd'hui il y a un tassement de la consommation, il y a aussi un tassement du pouvoir d'achat, donc il a intérêt à nous solliciter pour qu'on consomme toujours davantage.
Oui, mais mieux consommer, c'était le mieux qui m'interrogeait un peu. Parce
Je crois qu'il, oui, ça répond effectivement à une attente. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'interrogations. C'est vrai que on se pose des questions sur la qualité de ce que l'on consomme, la traçabilité, etc. Donc, je pense qu'ils emboîtent le pas sur cette démarche, cette attente du consommateur. Aujourd'hui, Carrefour est aussi dans le développement durable, il est dans le commerce équitable, il est dans toutes les tendances du moment, je crois.
Donc, c'est génial. Il a bien raison de préconiser ça.
Alors, je crois qu'il y a d'excellents communicants, effectivement, qui sont derrière et qui vont dans le sens du vent, tout à fait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière Carrefour, enfin, des pratiques qui laisseraient penser que ce n'est pas forcément mieux consommer quand on va chez lui ? Enfin, Carrefour ou un autre, hein, parce que ce n'est pas une attaque spécifique contre Carrefour.
Oui, j'allais dire, non, c'est propre à toute la grande distribution. Et quand on dit grande distribution, ce n'est pas seulement le format du magasin, ce n'est pas l'hypermarché, c'est aussi le supermarché et la supérette. Effectivement, des pratiques tout à fait condamnables, puisqu'il y a ce fameux mécanisme que dénonce d'ailleurs un de ses concurrents, Leclerc, donc les marges arrière, et qui font qu'on exerce une pression énorme sur le monde agricole, sur le monde des entreprises, avec effectivement un mécanisme qui détruit sur son passage tout l'aspect humain de l'économie.
Et marge arrière ?
Marge arrière, alors c'est tout simple. On va prendre un exemple. Quand un consommateur achète un produit 100, il a été payé 90 ou 95 au fournisseur. Et on dit, ce qui permet en tout cas à la grande distribution, de dire nous ne sommes pas chers, puisque vous voyez bien que l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente n'est pas très important. Il faut bien qu'on vive, qu'on paye nos salariés, nos charges, etc. Et puis une fois ces 90 ou 95 négociés auprès du fournisseur, on revient en arrière en disant au fournisseur, mais c'est bien, vous nous avez négocié un prix très intéressant, mais maintenant vous devez de l'argent. Et vous nous devez de l'argent pour un certain nombre de raisons, qui sont les mises en avant, les têtes de gondole, les promotions, etc. Il y a 10 ans, ces marges arrière, ça représentait 10% du prix du produit. Et on criait au scandale en disant ça va faire des délocalisations, des plans sociaux, beaucoup de chômage. Et puis aujourd'hui, on arrive à des taux de marge arrière de 40 à 50%, ce qui fait qu'on ponctionne complètement la substance de l'entreprise et que finalement, c'est le consommateur qui finit par payer ces marges arrière.
Mais j'ai pas bien réussi à comprendre ce que c'était les marges arrière. Vous voulez dire que les producteurs payent, je sais pas, pour la publicité, pour être mis en tête de gondole?
Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vendu leur produit, on leur dit maintenant c'est pas tout. Si vous voulez que votre produit soit mis en valeur dans nos rayons, eh bien par exemple en tête de gondole, on sait, vous savez, les têtes de gondole, ce sont ces espaces à l'extrémité des rayons. Quand on met un produit en tête de gondole, on le vend deux fois plus que si le même produit est au milieu du rayon. Et donc, on va dire au fournisseur, je vous mets en tête de gondole, je vais vous faire figurer, même si vous ne l'avez pas choisi, dans ces catalogues qui inondent au quotidien nos boîtes à lettres. Et donc, pour vous avoir fait figurer dans ces catalogues, je vais vous demander de l'argent, je vais vous mettre en avancée de caisse, c'est-à-dire très proche des caisses pour pouvoir être à proximité du consommateur quand il attend pour payer, je vais faire de la promotion, etc. Bref, une foule de choses, il y a plus de 500 raisons qui ont été mises en évidence par nos parlementaires, et toutes ces raisons font qu'on va demander ici 2%, 3%, 4% de plus aux fournisseurs, en plus donc de remise par rapport au prix qui a déjà été négocié.
Mais de toute façon, ils s'en tirent quand même le producteur, enfin, je ne vois pas le problème réel.
Bah, ils s'en tirent de moins en moins, c'est-à-dire, vous savez, on le sait tous, notre pouvoir d'achat n'augmente pas, et loin s'en faut. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans un prix, il y a deux grandes masses. Il y a la rémunération de celui qui fabrique ou qui produit, et il y a la rémunération de celui qui distribue. comme le distributeur veut toujours la part la plus importante du gâteau, il y a de moins en moins pour celui qui fabrique ou qui produit, ce qui veut dire qu'on va comprimer le coût. Et dans le coût, il y a quoi? Il y a soit de la matière première, soit de la main d'œuvre. Évidemment, la matière première, on l'a déjà comprimée au maximum. La seule variable possible, c'est les charges sociales, ce sont les salaires, et donc on va jouer sur ce poste-là. Ce qui veut dire qu'on va encourager les délocalisations, les désindustrialisations, etc.
Et oui, on a passé du Théophile au chantre, c'est pour rendre hommage à Jacky Fourniret, qui est l'accordéoniste de Théophile au chantre. Si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, n'hésitez pas, moi j'y suis allée, c'était absolument génial. Alors là, on n'était pas du tout en train de parler de musique, ni de musiciens qui commencent à prendre de l'ampleur, j'espère en tous les cas pour lui. On était en train de parler de la grande distribution. Et tout à l'heure, à la fin de votre première intervention, vous disiez que finalement, les pratiques de la grande distribution amenaient à des délocalisations.
Il faut le dire.
J'ai trouvé que c'était un peu raccourci comme pensée.
Raccourci. Alors, effectivement, on peut un petit peu l'expliciter. C'est que, comme je disais tout à l'heure, donc, dans un prix, il y a deux grandes masses. Il y a la rémunération de celui qui va distribuer, donc l'hypermarché, et puis la rémunération de celui qui fabrique. On sait bien que le pouvoir d'achat n'étant pas extensif, eh bien, effectivement, et comme l'hypermarché, le supermarché, la centrale d'achat, voulant toujours plus, une part plus importante du gâteau, finalement, on se retrouve avec de moins en moins pour ceux qui produisent ou ceux qui fabriquent. Ça veut dire que côté agricole, on va coller une pression telle qu'on va pousser d'abord à une agriculture productiviste, intensive, où l'humain ne va pas avoir sa place. On a aujourd'hui, en France, pays des droits de l'homme, dans le sud de la France, des gens qui cueillent des fruits dans des conditions d'esclavage. Et puis, dans les entreprises, eh bien, on va mécaniser à outrance pour essayer de réduire le plus possible la masse salariale, les salaires, les charges sociales. Et quand on n'y arrive pas, la seule solution, c'est de délocaliser. Ce qui veut dire que cette grande distribution, qui veut toujours plus dans le prix d'un produit, eh bien, finalement, encourage effectivement à délocaliser. Et quand on ne veut pas le comprendre, elle impose à ses fournisseurs de se délocaliser en disant soit vous délocalisez, soit je ne travaille plus avec vous parce que je veux des prix toujours plus bas. Donc c'est vraiment un accélérateur. Je ne dis pas que la grande distribution est responsable de toute la mondialisation, de toutes ces pratiques, mais en tout cas c'est un accélérateur de ces pratiques de délocalisation.
Vous disiez dans votre livre, en plus de ça, qu'il y avait des pratiques qui tendaient à imposer de payer avec retard. Je ne sais pas si je suis très claire.
Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites misères. Quand on parle de marge arrière, en fait, c'est un tout. Et notamment, vous savez, en France, d'abord, on n'a plus que 5 centrales d'achat. C'est assez étonnant, mais simplement 5 centrales d'achat qui contrôlent l'ensemble du marché. 90% des produits de consommation courante que nous consommons passent par ces 5 centrales d'achat. Et donc, ces gens, et finalement, si on prend l'exemple un petit peu d'un sablier, vous savez, ce sablier qu'on retourne pour faire cuire les œufs, eh bien, vous avez, c'est comme si vous vouliez faire passer par le haut 70 000 entreprises, 400 000 exploitations agricoles qui essayent de rejoindre tout en bas 60 millions de consommateurs. Et au point le plus étroit, vous avez 5 centrales d'achat qui vous disent où vous payez, vous ne passez pas. Et donc ces gens sont des points de passage obligatoires. Aujourd'hui, quand vous fabriquez quelque chose, peu importe le produit, le seul débouché possible, c'est finalement la grande distribution. Et donc ils vont jouer sur la durée des paiements. Vous les livrez et puis ils vont vous payer à 30, 60, 90 jours, 120 jours, parfois beaucoup plus. Vous savez que on a parfois des conditions sur la route assez difficiles, du brouillard, du verglas, de la pluie, des accidents. Quand un camion arrive en retard, c'est un camion gratuit. Un quart d'heure de retard, c'est un camion gratuit. Ou il repart à l'usine à plein, il ne sera pas déchargé, ou il est abandonné sur place.
Vous voulez dire que l'hypermarché oblige le producteur à lui abandonner
Voilà, le camion devait arriver à 8h, il est arrivé à 8h15, et bien c'est un quart d'heure de trop, et la pénalité, c'est de dire ce camion aujourd'hui sera gratuit. Donc ce qui veut, et ça c'est donc la pénalité. Et dans les autres cas, bien sûr, les camions arrivent quand même à l'heure, sont payés, les livraisons sont payées, mais bien sûr avec un décalage énorme. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut bien regarder d'ailleurs quand les consommateurs vont dans un hypermarché, vous verrez qu'il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de marchandises en stock au grenier, il n'y a pas de sous-sol non plus. Et si vous faites le tour à pied d'un hypermarché, vous verrez qu'il n'y a pas d'air de stockage. Les murs que vous voyez sont les murs extérieurs, donc toutes les marchandises sont soit sous vos yeux, soit quelque part chez le fournisseur, soit quelque part sur la route entre le fournisseur et le point de vente. Ce qui veut dire que les marchandises sont approvisionnées, mises en rayon, vendues, approvisionnées à nouveau, etc. un certain nombre de fois, alors qu'elles ne sont payées qu'à 30, 60, 90 jours, voire beaucoup plus. Et donc cet argent sert effectivement, et réinjecté dans les circuits financiers, sert à financer une foule de choses.
Vous parliez justement dans votre livre d'espèces de flux tendus entre le producteur et le distributeur, dans le sens où il y a même une interconnexion des ordinateurs, de façon à ce qu'il y ait une espèce de réapprovisionnement automatique, on pourrait
oui,
dire.
Oui, tout à fait. C'est effectivement une espèce de, une connexion véritable entre la caisse enregistreuse de la caissière, quand vous passez en caisse, et les ordinateurs du fournisseur. Vous passez avec un paquet de pâtes de 250 grammes en caisse, et bien on dit au fournisseur, je viens de vendre à l'instant même, à la seconde près, un paquet de pâtes, et donc vous allez devoir me réapprovisionner. Donc ça, c'est en temps réel, il n'y a plus d'intervention humaine, ce qui empêche d'ailleurs les fournisseurs de négocier, puisque finalement, la commande se génère automatiquement.
Mais, enfin, j'avais, quand en préparant cette émission, je m'étais dit, je vais lui dire, mais c'est quand même très très bien, les hypermarchés, c'est même une nécessité. Enfin, que M. Carrefour pressurise M. Panzani, à la limite, bof, je m'en fiche un peu.
Oui, moi aussi d'ailleurs. Moi aussi, si ce n'est que chez M. Panzani ou dans les entreprises, il y a des salariés, il y a des gens qui attendent un travail, il y a des jeunes qui attendent un futur, etc. Et le seul souci que l'on a aujourd'hui, c'est que par ces pratiques, encore une fois, c'est pas la taille. Moi, je m'en moque de la taille des hypermarchés, du commerce, petit, grand commerce, c'est pas le débat. Sauf que ces pratiques font que, effectivement, il y a de moins en moins de gens sur la terre pour cultiver, de moins en moins de gens dans l'industrie, puisqu'on ferme une foule d'usines, d'ateliers, etc. Et donc, si on regarde bien, de moins en moins de cotisants. Et aujourd'hui, où on remet en cause la protection sociale en vous disant il n'y a plus de sous pour les retraites, quand demain on va nous dire il n'y a plus de sous pour la santé, ou quand on va vous dire aussi à GCS il n'y a plus d'argent pour les services publics, bien sûr, il n'y a plus de cotisants, il n'y a plus personne sur la terre, plus personne dans les usines, la France devient une véritable friche industrielle, comme elle est devenue une friche agricole, une friche commerciale. Donc ça va bien au-delà, je dirais, de ce que l'on peut imaginer. C'est pas le rapport petit commerce en commerce qui, personnellement, m'intéresse pas beaucoup. C'est de voir que ces pratiques, effectivement, laminent l'emploi, laminent tout ce qui est derrière, l'envers du décor. Donc c'est vrai qu'il ne s'agit pas de pleurer sur le sort de Danone, Nestlé ou les autres, mais de bien comprendre que derrière ces pratiques, eh bien c'est vrai qu'on va effectivement pousser à délocaliser, à détruire l'emploi, etc. Et que derrière, il y a une incidence bien sûr au niveau social et au niveau environnemental également.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Christian Giacchio qui a écrit Les coulisses de la grande distribution. Ah vraiment, je bafouille, hein, chez Albin Michel. Encore une fois, je me disais, mais c'est quand même très 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 nécessaire, ces hypermarchés, en particulier pour citer des marques, des aides et des leader prize qui ont pour vocation de permettre à ceux qui sont les plus pauvres parmi nous de pouvoir manger simplement peut-être.
Oui. Eh bien, je crois même que ce sera de plus en plus nécessaire, puisque ces mastodontes de la distribution nous appauvrissent globalement de plus en plus, et que donc répondent par un format différencié de commerce à cet appauvrissement. C'est-à-dire qu'ils vont détruire l'emploi, ils vont détruire tout le lien social, etc. Et puis ensuite, se dire dans le fond, les gens ont besoin de manger, c'est vrai, et donc je vais répondre à cette attente des plus pauvres par un nouveau format de commerce. On ne dit pas des commerces pour pauvres, on parle de hard discount, effectivement. Et bien sûr, hard discount, ça veut dire quoi? Ça veut dire pression encore plus importante sur les fournisseurs, encore plus importante sur le monde agricole. Il ne s'agit pas pour les grands distributeurs de renier leurs marges, bien entendu, surtout pas, mais c'est de dire, eh bien, on a besoin de prix bas, donc on va demander encore plus, exiger encore plus. Et ce qui veut dire qu'on va jouer sur quoi, encore une fois, sur l'emploi. Donc de plus en plus de gens mis à la marge, de plus en plus de laissés pour compte, et donc, évidemment, de plus en plus de pauvres. Et ça tombe bien, puisque la grande distribution répond justement à cette demande. Vous savez, les prix bas, c'est un peu un mythe. Si on regarde en 1949, quand Édouard Leclerc, donc le père de Michel Édouard, a lancé son premier libre-service, c'était pas une grande surface, c'était un tout petit magasin, 50 mètres carrés, eh bien, il y avait un rapport de 1 à 4. Quand le consommateur achetait un kilo de pommes, 4 francs, il avait été payé 1 franc à l'agriculteur, on disait c'est pas normal, il y a trop d'écart, c'est pas logique. Et puis aussi, il y avait beaucoup trop d'intermédiaires, on disait qu'il y avait entre 10 à 12 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. 50 ans après, ce qu'on se rend compte, c'est que quand vous achetez un kilo de pommes, 12 francs, il a été payé 1 franc ou 1 franc 50 à l'agriculteur. Ça veut dire que l'écart est encore bien plus important qu'il était en 49, avec, au passage, la qualité qui a baissé bien entendu, et le choix aussi qui s'est restreint. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est que le consommateur paye trois fois. Il paye une première fois quand il passe à la caisse de l'hypermarché, au prix fort, puisqu'un kilo de pomme à 12 francs, payé 1 franc 50 à l'agriculteur, c'est pas cher, c'est très cher, mais c'est pas suffisant. Avec 1 franc 50, l'agriculteur va pas s'en sortir, et donc on va demander au consommateur de mettre à nouveau la main à la poche, d'envoyer de l'argent à son percepteur, qui l'enverra à Bruxelles et qui, via la PAC, la fameuse politique agricole commune, renverra de l'argent à nos paysans, donc l'argent que leur refusent finalement les centrales d'achat des hypermarchés. Donc ça veut dire qu'on va encourager un type d'agriculture intensif, extrêmement productiviste, etc. Donc de moins en moins de paysans sur la terre, on va encourager ce qu'on appelle les chasseurs de primes, et que donc il y aura de moins en moins de gens sur la terre. De la même façon, dans les entreprises, on voit bien des plans sociaux, des localisations. Ce qui veut dire que les laissés pour compte de ce libéralisme-là sont toujours plus nombreux, et que donc on va demander au consommateur, quand il a la chance d'avoir encore un bulletin de paye, là encore de mettre la main à la poche via les prélèvements sociaux pour prélever toujours plus, pour finalement toujours moins de social, puisqu'on va lui demander à lui, consommateur, de réparer les dégâts sociaux qu'occasionnent ces pratiques. C'est pas Carrefour, c'est pas Auchan, c'est pas Leclerc qui vont payer, bien sûr. C'est donc les consommateurs. Et puis ça, c'est pour les coûts directs. Si on regardait les coûts cachés, on verrait qu'il y a effectivement la réparation des dommages environnementaux quand on encourage un certain type d'agriculture intensive, etc. Eh bien, c'est vrai qu'on va polluer les sols, on va handicaper énormément les générations futures. Tout ça, on s'en moque complètement. Mais c'est un jour, il faudra réparer tout ça. Donc il y a tous les coûts cachés, tous les coûts induits qu'on ne mesure pas, qui sont énormes.
Moi, j'aurais voulu savoir pourquoi les producteurs, finalement, ne dénoncent pas cet état de fait. Parce que je ne vois pas des grandes manifestations de producteurs de, je ne sais pas, de n'importe quoi, de carottes, notamment.
Non, parce qu'on a inventé quelque chose d'assez génial qui est la PAC. C'est de dire, il y a des gens qui se comportent en voyous, c'est vrai qu'ils vous saignent aux quatre veines, mais vous inquiétez pas, on va réparer les dégâts. Donc on laisse faire la grande distribution qui pressurise. Vous savez, les paysans aujourd'hui sont devenus de véritables sous-traitants du monde de la grande distribution. Mais en fait, tout ce qu'on leur donne pas, tout ce que leur refuse les centrales d'achat, finalement, on se dit que c'est le contribuable qui va le compenser. Et comme c'est noyé dans la masse des transferts fiscaux, etc., finalement, ça se mesure pas trop. Et tout va bien, le consommateur s'en rend pas compte. Le consommateur paye plusieurs fois, mais ne le ressent pas. Comme c'est pas direct, eh bien finalement on le ressent pas. Donc les paysans, vous le voyez, se plaignent pas forcément. Ce qui va se passer, par contre, c'est comme on remet en cause la PAC, la fameuse politique agricole commune, et qu'on dit qu'il va falloir arrêter de subventionner l'agriculture, il va bien falloir un jour que l'agriculteur vive de son travail, des fruits de son travail, et arrête d'être subventionné comme c'est le cas aujourd'hui.
Et pourquoi il n'y a pas à ce moment-là de grandes manifestations de producteurs de bonbons, quelque chose d'autres gens qui ne seraient pas agriculteurs?
Parce qu'ils n'en ont déjà plus les moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus que 5 centrales d'achat. Quand vous faites des bonbons, d'abord vous n'êtes pas sûr d'être référencé dans les 5, je dis il n'y en a que 5, c'est vrai, mais vous avez peut-être un seul client, voire deux, vous êtes dans un ou deux réseaux, pas forcément dans les 5. Et puis que si vous manifestez, d'abord je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde avec vous pour défendre votre cause, et qu'ensuite la sanction immédiate c'est le déréférencement. Il y a eu des gens qui se sont plaints quand Lionel Jospin, en 2000, a parlé des marges arrière à la télévision. Il y a des fournisseurs qui se sont crus autorisés à répondre à des journalistes qui ont parlé des marges arrière et pour en avoir parlé, ont été déréférencés. C'est-à-dire que le lendemain matin, on leur dit, voilà, fallait pas parler des marges arrière, vous avez osé le faire, maintenant vos produits, vous les gardez, on n'en veut plus. C'est ça la sanction.
Référencé, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, quelque part, quand vous avez un produit, eh bien, on va vous demander de l'argent pour figurer sur les rayons des hypermarchés. J'ai pris dans le bouquin l'exemple de quelqu'un qui fabrique qui produit des tablettes de chocolat et qui a dans sa gamme 5 variétés, du chocolat noir, blanc, au lait, aux noisettes, aux amandes. Eh bien, pour figurer sur les rayons des hypermarchés, il faut qu'il soit référencé. Ça veut dire qu'il faut que les chefs de rayon, quand ils commandent du chocolat, aient quelque part sur leur listing une ligne qui corresponde à chacune de mes 5 tablettes de chocolat. Où il y a une ligne effectivement qui existe, le chef de rayon peut commander, il n'y a pas de souci. Où il n'y a pas cette ligne, le produit n'existe pas, on ne peut pas le commander. Et donc, on va demander aux fournisseurs de payer entre 800 francs et 1000 francs par variété de produit par supermarché, entre 3000 à 5000 francs, toujours par variété et par hypermarché. Si j'ai dans ma gamme 5 variétés de tablettes de chocolat, donc noir, blanc, au lait, noisette et aux amandes, et en face de moi un réseau qui a 200 hypermarchés et 1000 supermarchés, eh bien, je dois faire un chèque de 12 millions de francs. 12 millions pour être référencé. Ça ne veut pas dire qu'on va m'acheter mes produits. Peut-être qu'on va les acheter passionnément, à la folie. Peut-être pas du tout, j'en sais rien encore, mais en tout cas, c'est le prix à payer. Et donc voilà. Et à l'inverse, si vous osez parler de ce sujet, eh bien, on vous dit référence. Du jour au lendemain, on vous dit, maintenant, vous n'existez plus, on ne vous connaît plus. Donc c'est la sanction.
Vous avez tout à l'heure dit le mot parlementaire en parlant des problèmes de la grande distribution. En effet, les parlementaires se sont penchés à un moment sur toutes ces pratiques qu'ils ont dénoncées. Mais visiblement, il n'y a rien qu'à bouger. Enfin, ça n'a pas l'air d'avoir mis en branle des mesures qui tendaient à annihiler ce genre de pratiques.
Non, ça fait des années que les hommes politiques prétendent légiférer. Et en fait, ça fait des années qu'il ne se passe rien. Ça a commencé avec les fameuses lois Royer, déjà en 73, mais un petit peu plus tard avec les fameux rapports Charrier, donc rapport en 93, puis en 95. Jean-Paul Charrier, donc député du Loiret, député RPR. Et puis ensuite, avec alternance, Jean-Yves Le Déo, député socialiste, qui a repris son beau. Il y a eu 3 rapports parlementaires extrêmement bien documentées qui ont été déposées sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Et à chaque fois, ces projets de loi ont été vidés de leur substance. Et finalement, on se rend compte que l'homme politique n'a pas trop envie de se fâcher avec ses amis toujours. Donc, on sait bien qu'il y a eu, malheureusement, il y a eu financement des partis politiques de la part de la grande distribution, à gauche comme à droite, surtout à gauche d'ailleurs. Et finalement, l'homme politique a l'air de ne pas avoir vraiment envie de se fâcher avec ces gens-là. Donc, on prend des demi-mesures, mais des mesures qui finalement n'aboutissent à rien et ne contraignent rien ces pratiques et ne contrarient pas en tout cas ces pratiques de marge arrière. Aujourd'hui, Renaud Dutreil donc nous dit qu'il va prendre des mesures. Il constate dans une excellente note qui porte son nom, une circulaire, que les marges arrière sont de 40 à 50%, nous dit qu'il va se fâcher et dans le même temps nous dit qu'il va faire passer les marges arrière d'arrière en avant au rythme de 1 ou 2% l'an. Ce qui veut dire qu'il faudra entre 25 à 50 ans pour régler le problème. Donc, sachant que les marges arrière en plus augmentent de 2% chaque année, c'est vraiment une absence totale de volonté politique.
Et alors que faire dans ce contexte-là ?
Mais que faire ? Je crois qu'il faut, il faudrait, et ça c'est pas facile, qu'il y ait une véritable volonté politique. Donc ça passe par le citoyen qui doit mettre la pression, si j'allais dire, sur l'homme politique en montrant que derrière un acte de consommation il se passe quelque chose. Il y a un avenir pour les jeunes ou pas, il y a un type d'agriculture ou un autre, c'est un type de relation sociale ou un autre. Et puis peut-être, et surtout, changer nos comportements en tant que consommateurs. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand le citoyen, même s'il a des idées un petit peu... s'il est conscient de beaucoup de choses, il est social ou autre, souvent il laisse à la maison le citoyen et c'est le consommateur qui part pousser le caddie. Ce qu'il faut réfléchir, c'est quand on glisse un produit dans son caddie, eh bien il se passe quelque chose dans l'envers du décor, c'est pas neutre. Je mets un kilo de tomates dans mon caddie, j'encourage un type d'agriculture ou une autre. Je mets un t-shirt à 20 francs dans mon caddie, est-ce que j'encourage le travail des enfants dans les sous-sols du tiers-monde ? Est-ce qu'au contraire, je favorise une distribution de richesses, etc. Il y a tout ça qu'il faut se poser. Un acte de consommation, c'est pas neutre et tout commence par là.
Avec la difficulté, potentiellement quand même, qu'on peut pas tous aller s'acheter des carottes bio à 15 balles le kilo.
Oui, mais on devrait, puisque s'il y avait pas ces surrémunérations, ces marges colossales dans la grande distribution, moi je prétends, d'abord, il est tout à fait inacceptable de penser que des gens ont les moyens de manger bon, sain, bio, et puis que d'autres mangent des sous-produits complètement dénaturés. Ce sont des sous-consommateurs, ou je sais pas comment on les traite, mais en tout cas, c'est tout à fait inacceptable socialement, et c'est pas possible. Or, on voit bien que s'il y avait pas ces pratiques, tout le monde pourrait manger sain, bio et de qualité, et pas avoir, comme on le fait aujourd'hui, une consommation à deux vitesses qui est tout à fait inacceptable.
Oui, donc c'était bien des sous et des hommes. C'était avec Christian Jacquiot, bafouillage maximal aujourd'hui, qui a écrit Les coulisses de la grande distribution. Alors, volontairement, j'avais pour ma part occulté dans mes questions la façon dont les choses se passent de façon très précise dans la grande distribution. Vous pourrez trouver tous ces renseignements dans le livre donc qu'il a écrit, qui s'appelle Les coulisses de la grande distribution, qui est bien documenté. C'est chez Albin Michel et ça se trouve dans les bonnes librairies. Voilà, la semaine prochaine, du suspense ces derniers temps dans les personnes qui vont bientôt se succéder devant moi. En tous les cas, normalement, on devrait avoir Serge Halimi dans quelques temps. Je ne désespère pas d'avoir Jacques Nikonoff sur le travail tout bientôt. Et puis d'autres gens qui, j'espère, nous parleront de la Sécu. Ça devient urgent. Voilà, la semaine prochaine.